m'appelle Bastien, j'ai 14 ans et je voudrais réagir sur une manifestation qui s'est passée avec José Bové dans la Vienne, à Val-d'Ivienne. Et à peine on était rentré dans le champ, les CRS nous ont même pas prévenus, ils ont commencé à nous tirer des grenades lacrymogènes dessus pour une première manifestation. Je trouve ça dégueulasse. Raffarin nous a tiré dessus. Voilà.
Allô, bonjour Daniel, j'aime beaucoup vos émissions, j'ai 68 ans et je voulais vous dire, demain il y a des faucheurs qui vont aller près de Poitiers, des faucheurs de maïs OGM, et que je comprends très bien que tout le monde puisse pas y aller, mais on peut les aider financièrement parce qu'ils vont avoir des gros frais de justice, et on peut envoyer les chèques à l'association pour un monde solidaire avec mention pour les faucheurs d'OGM, et c'est à envoyer à rue droite à 12100 à Millau. Voilà, au revoir et merci.
Oui, bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe, ici c'est Richard de Pau. Je voulais simplement tirer un coup de chapeau à ce petit village qui a su faire de la désobéissance civile et d'avoir résisté aux forces de l'ordre et d'un jugement imbécile qui allait soustraire à sa mère, une gamine de 4 ans, qui allait soustraire d'une maternelle devant d'autres gamins, etc. Donc bravo à tous ces gens-là et continuez à faire des actions de désobéissance civile. Allez, bisous, à bientôt.
Bonsoir Monsieur Mermet. Avec l'actuel coût de la guerre américaine en Irak, soit 140 milliards de dollars, on pourrait construire en France environ 1 250 000 logements de deux pièces, à grosso modo 91 000 euros unitaires, ce qui permettrait de régler le problème majeur des femmes en souffrance, des SDF et des mal logés. Merci.
Salut les amis. Alors, pendant le jeu de la cagnotte américaine, on peut lancer le jeu de la cagnotte française. Vous avez entendu comme moi, aux infos hier sur France Q, les bénéfices nets pour le premier semestre 2004, six petits mois, des 40 entreprises les mieux cotées en bourse en France, là, chez nous, en France, chez nous, 23 milliards d'euros. On n'est pas loin de la cagnotte américaine, quand même. Bon, allez, six fois moins, sept fois moins, je ne sais pas. Et ça leur représentait une augmentation de leurs bénéfices nets à ces entreprises de 68%. Alors, moi, mon salaire n'a pas été augmenté de 68%. Donc, il y a un nouveau jeu à lancer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire collectivement? Pas pour aller manger des couscous garbites pendant 450 000 ans tous les jours avec cette somme, c'est pas ça. Collectivement, pour sortir de l'impasse du capitalisme. Aujourd'hui, ils nous expliquent que s'ils ont fait ces bénéfices, c'est parce qu'ils ont délocalisé, parce qu'ils ont mis au chômage des gens, parce qu'ils ont restructuré, etc., etc. Donc, il n'y a pas moyen dans ce système que nous, les travailleurs, ben nous récupérions un petit peu du fruit de cette énorme richesse de la France. Enfin, de quelques personnes en France, voilà. Alors, le jeu, c'est ça. Quelle est la chose qu'on peut faire collectivement avec cette nouvelle cagnotte? Ciao.
Bonjour, c'est Yasmine de la région bordelaise. J'écoute France Inter pratiquement toute la journée parce que je suis commerçante. J'apprécie en général, beaucoup même. Et je m'étonne, franchement, qu'on nous passe je sais plus comment on appelle ça, ces messages avec des gens célèbres qui nous rappellent que les 12 journalistes français et leurs chauffeurs sont toujours aux mains des ravisseurs en Irak. On nous parle également de l'ouragan à Haïti, mais par contre, à aucun moment, on nous dit, si une fois j'ai entendu, si vous voulez aider, voici le mail, machin. Bon, moi, j'ai pas de mail. Par contre, j'ai un peu de sous que je peux donner. Donc, j'aimerais savoir s'il y a une adresse où on peut envoyer des dons. Merci. C'est incroyable qu'il faille téléphoner pour ça, quand même. Au revoir.
Alors, je pense qu'il existe plusieurs associations, si vous voulez exprimer votre solidarité envers Haïti. Nous, on a noté une adresse, celle du Secours Populaire. Secours Populaire, boîte postale 3303, 75123, Paris, c'est Dex 3. Et libellez votre chèque, si vous envoyez un chèque, à Urgence Caraïbes. Alors je répète tout, Secours Populaire, boîte postale 3303, 75123, Paris Cedex 3, et libellé Urgence Caraïbes. Voilà. Effectivement, ces images qui nous parviennent d'Haïti sont terribles. C'est un pays où on a fait plusieurs séries de reportages et il y a une sorte de damnation de ces Haïtiens qui ont l'air de payer indéfiniment leur arrogance d'avoir créé la première république noire de l'histoire. Alors aujourd'hui, ben justement, retour d'Amérique où l'avion qui nous a ramené cette nuit de Washington était poussé par des vents très rapides qui étaient un bout du cyclone qui ravage la Floride et le sud des États-Unis et donc la Caraïbe. Retour d'Amérique avec plein la musette d'histoires à vous raconter et de rencontres et de surprises pour bientôt dans la basse si j'y suis. Et aujourd'hui, on continue les peines perdues, c'est-à-dire la suite de reportages de Guy Vanquetil avec les jeunes détenus. Voilà d'ailleurs quelques-unes de vos réactions à l'émission précédente. Et puis d'autres réactions de nos chers auditeurs sur le répondeur de la base. Si j'y suis, toujours copié, jamais égalé, 01-56-40-37-37.
Oui, bonjour, je suis une fidèle auditrice de la base. Si j'y suis, j'apprécie beaucoup toutes vos émissions qui nous remuent les ménages. Parfois nous culpabilisent parce qu'on se demande ce qu'on peut bien y faire. Là, c'est au sujet de l'émission de en ce moment, là, sur les prisons. J'ai été bouleversée par la façon dont vous avez laissé amalgamer un crime et un délit. J'ai été victime de délit, j'ai été cambriolée. J'estime qu'effectivement, la personne qui a fait ça, pas fait un crime, elle doit peut-être faire de la prison dans des conditions convenables. Et on a laissé un jeune parler de viol. Ma fille a été violée, ça je considère que c'est un crime. Et que ne parle pas de la même façon de gens qui sont en prison pour un délit et de gens qui sont en prison pour un crime. Je crois qu'on ne peut pas laisser un jeune parler de viol comme ça banalement, en même temps et sur le même plan qu'il parle d'un délit qu'il a commis. Voler une voiture, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est un délit, il y a quelque chose à faire, mais c'est pas la même chose. Donc, quand même, pour ces jeunes, si ma journaliste doit rester neutre, je veux bien. Mais il y a des limites dans la neutralité et on ne peut pas laisser un jeune mettre sur le même plan un crime comme le viol et un délit comme un vol de voiture. Voilà, je suis bouleversée là, j'espère que j'ai été claire. Merci à vous, au revoir.
Bonjour, bonjour, c'est Guirec de Chamonix qui vous appelle. C'est à propos de l'émission qui vient de passer donc vendredi là, qui s'appelait Peine perdue. C'est un petit complément par rapport à une association avec laquelle je travaille dans la vallée de Chamonix. On est plusieurs guides à travailler avec elle et qui vise à s'occuper de ces jeunes là dont tu viens de parler, Daniel, et qui essaye de les mettre dans des situations de réussite en les emmenant en montagne, en alpinisme, en escalade. Voilà, donc une association qui mérite d'être connue, notamment des jeunes eux-mêmes ou des éduques qui s'en occupent. Donc c'est une association qui s'appelle En passant par la montagne, qui est située à Servoz, dans le 74, juste à côté de Chamonix. Et vous trouvez toutes les informations sur cette association sur son site, qui est très simple, www.montagne.org. Voilà, www.montagne.org. Et ben merci Daniel de faire parler un peu ces jeunes à la radio. Nous, on s'en occupe en montagne et ça fait plaisir de les entendre. Merci, au revoir.
Bonjour, c'est Marcel Coussure à Châteaudun, dans l'Eure-et-Loire. Je suis en train d'écouter votre émission sur la prison et je bondis parce que vous interviewez des gens hein, qui ne sont pas de chez nous. Hein. Les prisons sont remplies de ce genre d'individus, aussi bien dans les prisons, les hôpitaux. Nous sommes envahis. Alors que nous avons tant de misère chez nous, les Français. Allez, j'arrête parce que je crois que je dirais encore des bêtises qui seraient encore plus méchantes.
Châtiment. J'ai 53 ans. Je suis psychanalyste et formateur en travail social. Mais à 15 ans, pour un acte très grave, délit de vagabondage, j'ai connu la prison à Paris et en Belgique. Je crois que ça aurait pu mal tourner si, au-delà des barreaux et des matons, je n'avais rencontré un homme, procureur du roi belge, et retrouvé espoir dans le lien social. Aussi, presque 40 ans plus tard, je vous dis, ne jetez pas des enfants en prison. Ce qu'attendent les jeunes, tout jeunes, c'est de rencontrer des adultes à qui parler. Certains commettent des actes répréhensibles, font peur aux braves gens. Il ne s'agit pas d'excuser, mais au contraire de les rendre responsables, qu'ils puissent répondre de leurs actes, qu'on les sanctionne, mais intelligemment. Qui aime bien, châtie bien. Encore faut-il commencer par aimer. L'appareil de la loi ne manque pas de ressources en matière de sanctions et de réparations. Le raisonnement qui veut que d'abord on enferme et qu'ensuite on éduque est aberrant et produit la plupart du temps une confirmation de la haine des jeunes pour la société. Je vous le dis, ne jetez pas des enfants en prison. Depuis tout temps, toute société a eu peur de sa jeunesse. Allons-nous continuer ainsi, versant dans la barbarie la plus rétrograde, là où les mœurs et la vie en société moderne exigent des inventions de civilisés? Signé Joseph Rouzel, Montpellier, que j'ai contacté ensuite et que j'ai rencontré à la librairie Païdos à Marseille, où il présentait deux de ses livres, Le transfert dans la relation éducative chez Duno, Psychanalyse pour le temps présent, Amour obscur, Noir désir chez Erès. Voilà. Au revoir.
Oui, Daniel, bonjour, c'est Jean-Christophe de Bordeaux. Très, très touchant, cette émission sur les prisonniers, ces pauvres petits prisonniers. Mais par équilibrage, par essayer de voir un peu de deux côtés, faire un petit reportage sur leurs victimes, peut-être, les gens qui ont subi des dommages, comme moi j'ai un voisin qui s'est fait tabasser en pleine rue et on lui a volé ses papiers, etc. J'ai un autre qui s'est fait casser sa voiture et qui a reçu des coups, il a eu deux fractures, etc., etc. Donc c'est bien, les pauvres petits malheureux prisonniers, mais regarde aussi, ça serait bien de voir un peu ce qui se passe de l'autre côté. Ils sont pas là-bas pour rien quand même, ces braves gens. Bon, je sais que ce message ne passera jamais, bien entendu, parce que c'est relativement très partial les messages qui sont pris en compte, mais bon, on sait jamais. Bonne journée et continue, l'émission est quand même bien.
Salut Daniel, une petite réaction à tes dernières émissions tout en réagissant à l'actualité. Il faut trouver des solutions alternatives à la prison, ben c'est tout simple, il suffit de se faire élire au Sénat et on récupère une immunité. On nous présente pour Charles Pasqua comme quelque chose de tout à fait naturel. C'est normal, vous avez des problèmes, vous avez vendu des armes, fait des trafics en tout genre, et bien allez au Sénat, vous n'aurez plus de problème avec la justice. Voilà, c'est Franck de Caen, salut.
Bonjour, c'est Jean-Charles de Bordeaux. Eh ben, ce matin, France Inter, la nouvelle est tombée, Pasqua a été élu, ben, j'en suis par terre, là, parce que, finalement, tout est possible pour les filous. Voilà, on est tombé vraiment bien bas. Salut à vous.
Je vous appelle parce que j'ai appris que vous étiez en train de faire un tour de la, de l'Amérique, essentiellement religieuse, et intégriste religieuse, comme vous le pensez. Je voulais vous demander pourquoi vous n'allez pas faire un tour dans les pays musulmans, où il y a des intégristes musulmans, ou même des musulmans tout court, pour aller faire le même genre de reportage. Vous avez peur de quoi? Qu'on vous coupe les couilles, ou qu'on vous coupe la tête, peut-être? À bientôt.
Je voudrais passer le message suivant. Un patron qui s'offre une page de pub dans la presse locale à 5000 euros, c'est pas courant. Il se l'est offert pour se justifier aux yeux de la population de la fermeture d'une usine de son groupe. Une page de pub qui explique que si ça ferme, c'est pas sa faute, surtout pas sa faute. C'est la faute des représentants syndicaux, la faute des salariés. C'est la faute des salariés, ils ont tout fait pour que la boîte ferme, parce qu'ils préfèrent toucher leur prime de licenciement au lieu d'attendre la retraite. Le gain serait de 4 mois de salaire. Pensez donc, 4 mois de SMIC, c'est une fortune. Et après, le chômage. C'est la faute de représentants du personnel. Pensez donc qu'ils ont commis la faute de défendre les salariés. Un patron qui s'offre une page de pub dans la presse locale, c'est à Lisieux, une page de pub à 5000 euros. Lisieux, c'est une ville de prière et de désarroi, comme le disait récemment la presse, où il y a déjà 19,6% de chômeurs et où 67% des gens vivent des minima sociaux. Après la lecture de votre page de pub, monsieur le PDG, si je suis émue, c'est simplement pour ces 81 personnes que vous allez mettre dehors, sans même un plan social. Salut, Daniel, merci pour tes émissions.
Oui, bonjour, je vous appelle, je m'appelle Nadine, je vous appelle parce que je suis enseignante dans le Cantal. Et qu'on dit que l'éducation nationale va bien, mais en fait c'est faux, je me retrouve pour ma deuxième rentrée consécutive en étant débutante dans un poste spécialisé. Et j'en ai marre parce que personne ne fait attention à ces élèves handicapés ou en difficulté et que voilà, c'est quelque chose de révoltant. On les met au placard, on leur met des enseignants débutants parce qu'au niveau budget, on ne peut pas leur mettre d'enseignants spécialisés. Qu'on essaie de boucher des trous pour que ça puisse passer inaperçu. Et moi, je veux plus que ça passe inaperçu parce que c'est des enfants qui ont besoin de gens spécialisés. Il y a des spécialisations pour ça, sanctionnées par des examens lourds qu'on refuse à certaines enseignantes intéressés par la chose et qui se retrouvent recalés alors qu'à côté ben, arrive la jeune débutante que je suis et qui prend une place parce que ben, on n'a plus collé personne et qu'au niveau budget, mettre un enseignant spécialisé, c'est trop cher.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. C'est Alexandre de Bordeaux. Voilà, je travaille dans une grande entreprise qui sous-traite beaucoup de choses, beaucoup de fabrications mécaniques à un certain nombre de sous-traitants. Sous-traitants qui sont dans une position ben, comme n'importe quel PMI, PME. Et quelle n'a pas été ma surprise en entendant l'un d'eux me dire qu'il avait assisté à une réunion présidée par le président, donc de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux. Une réunion où étaient invités donc des représentants de sociétés de fabrication des pays de l'Est, invitant donc tous les sous-traitants de Bordeaux à délocaliser leur production là-bas. En vantant évidemment les mérites des salaires très bas, de la rapidité d'exécution et j'en passais des meilleurs. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que moi, j'étais absolument scandalisé, parce qu'il y a un certain nombre de gens, de sous-traitants de PME qui essaient de maintenir l'emploi sur la région. Et quand j'entends le gouvernement dire qu'il va lutter, essayer de retenir l'emploi, non, c'est un mensonge, c'est une bouffonnerie. En fait, il incite au contraire. Il incite dans cette mouvance néolibérale, il incite tout le monde à par des petites touches à délocaliser. Voilà, bah écoutez, merci, merci pour vos émissions et puis la lutte continue, hein. Allez, au revoir.
Pourquoi maintenant on a le droit à des pages de pub dans le monde diplomatique? Voire des doubles pages, parce que si on tombe dans les mains de la pub, c'est terminé, il n'y a plus rien. Alors j'aimerais bien qu'on pose cette petite question, par exemple, à Ignacio. Ça serait intéressant qu'il nous réponde, parce que nous, on est lecteurs du monde diplomatique, et la pub, on n'en a rien à foutre. Bon voilà, c'est tout. Bon, c'était un lecteur anonyme du monde diplomatique, vendéen. Bon allez, salut.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Guy Vanctil, peine perdue.
France Inter !
Ici c'est bois d'assises, tu dis pas, c'est la merde, moi je fais des petits pois.
C'est facile de faire rentrer du pédo. C'est le secret de la prison.
Il faut de la magie.
Fatman, faut pas trop ouvrir sa bouche. Mais nous, mineurs, on n'a pas besoin de faire rentrer, on demande au majeur et ça y est. Ce qu'on vend là,
promenade là,
on les appelle, ils sont à la fenêtre, ils te balancent un yo-yo et ça y est, t'as tout ce que tu veux.
C'est malheureux à dire, mais entre 4-5 passages au quartier mineur, après c'est le bâtiment adulte, voilà quoi, c'est une carrière pénitentiaire, mais d'autre côté des barreaux, parallèle à la nôtre quoi.
C'est la loi de la jungle. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la loi de la jungle.
La prison, c'est pas dur. La prison, c'est la pression.
Allez vous faire victimer ! Bande de victimes !
Et donc, 91 !
Aïe, aïe, aïe !
Je viens du 9-1. 3-5-0.
Eh, c'était Dom, voilà. Ah,
Astérix 9-3 en Éal.
50.
Eh, c'est pourri, Bois d'Arcy.
Nicolas Sakoulibé. Malco. Chantouille.
Déployer
demain des services de police massivement dans le quartier de la Défense, non pas pour regarder ce qui se passe dans les cages d'escalier, mais dans les bureaux des entreprises qui y sont, on va voir un afflux massif de gens qui vont être incarcérés pour fraude fiscale, infraction communautaire, etc. Nous avons aujourd'hui 400 inspecteurs du travail en France. Triplons le chiffre et vous verrez que demain, les fraudes aux infractions sur la législation sur le travail vont se multiplier par 3, 5, 10 et on pourra construire un nouveau stéréotype social de finalement ce qui menace, fait peur et est réellement dangereux pour notre société.
N'exagérons rien. Tout ne va pas si mal en France. Il y a des chiffres qui augmentent. Et tant que les chiffres augmentent, rien n'est tout à fait désespéré. Regardons ces chiffres. Le chômage. Eh bien, le chômage, voilà quelque chose qui augmente plus de 7% en 2003. Un autre chiffre qui augmente, c'est le nombre de détenus en France. En mai 2003, nous avons, le saviez-vous, Françaises, Français, battu un record historique, 60 513 détenus dans les prisons françaises, et ça augmente. Y a-t-il un rapport entre ces deux chiffres, entre le chiffre du chômage et le nombre des détenus en France? Oui ou non? Pour les uns, oui. Pour les autres, nullement. Nullement. En tout cas, soyons optimistes parce que il y a là un avenir. Notre avenir est une prison. Voilà de quoi occuper ceux que l'on met en prison, construire des prisons. Voilà une occupation rentable pour la nation. Ceux qu'on met en prison construisent des prisons. Vous croyez que je plaisante? Eh ben, pas du tout. Il y a en France des programmes de réinsertion de jeunes mineurs délinquants qui consistent à leur faire construire des prisons. On pourrait, avec un grand auteur de fiction, de science-fiction, nous faire une planète entièrement carcérale. Le carcéral comme réponse au social, le pénal comme réponse au social, c'est un vieux sujet, une ancienne question qui revient. On l'a évoqué notamment aux États-Unis dans les reportages que nous avions fait dans les prisons de Los Angeles, et on voit qu'aujourd'hui, eh bien, comme notre ami le sociologue Loïc Vacan nous l'avait dit dans son bouquin La pénalisation de la misère, on est bel et bien dans ce processus délinquance répression, délinquance plus répression plus, délinquance plus, répression plus, délinquance plus, répression plus. Je plaisante pas. C'est à peu près ce que nous disent, qui donc? Pas seulement les détenus que Guy Vanctil a rencontré, les jeunes que Guy a rencontrés, mais c'est pas seulement les sociologues, les gens qui ont du recul et qui ont les moyens et le pouvoir symbolique, mais c'est les gardiens, c'est les surveillants, c'est le directeur de cet établissement ou de ces établissements qu'on avait rencontrés aussi aux États-Unis. C'est tout le monde qui dit ça. La solution n'est pas l'incarcération. Alors, quelle est la solution? On se pose cette question depuis 2 siècles. Il se pourrait que nous apportions quelques toutes petites lumières aujourd'hui avec l'illusion qu'éclairer les hommes, c'est réveiller leur courage.
Je dédicace Donald, Laoni, je dédicace Bibib, Afleury, Simba, Meladier, je dédicace tout le monde, tout. Je dédicace tout, moi, c'est le feu. Ah, c'est ça, voilà. Non, c'est pas.
Je regarde, ça c'est les courriers des détenus, c'est ça?
Oui, tout à fait. Demande d'audience ou en général, la majorité des courriers, c'est pour demander changement de cellule. Cher monsieur, tout d'abord bonjour monsieur le directeur. Je vous écris ce petit courrier car j'ai un petit frère qui se trouve au bâtiment jeune et qui suit une formation en mécanique. Je voudrais avoir un parloir intérieur avec lui car ça fait un moment que je ne l'avais pas vu. Je vous remercie, monsieur le directeur, de bien vouloir agréer mes salutations les plus respectueuses.
Et ça a été accordé. Donc, le grand frère qui est dans le bâtiment adulte va pouvoir voir le petit frère
qui se trouve au petit quartier.
Ça veut dire qu'il y en a au moins deux dans la famille qui sont en prison.
Dans la même prison, voire même des fois dans la même famille, j'en ai déjà vu trois ou quatre dans un établissement pénitentiaire.
Mais à force, on a l'impression que c'est toujours les mêmes qui vont en prison.
Oh oui, tout à fait. Bon, on est en établissement pénitentiaire, on a quand même beaucoup de jeunes qui ne reviennent pas et qui sont des délinquants occasionnels, je mettrai entre guillemets. Et ceux-là, on ne les revoit pas. Par contre, il y en a certains, bon, on voit qu'ils sont habitués à de multiples délits, hein, qui ont été vus plus de 20 fois chez le magistrat avant d'arriver en établissement pénitentiaire. Bon, ceux-là, c'est... Il n'y a plus de grandes chances de les rattraper. Ben, je leur dis hein, qu'ils ont une mentalité de délinquant et qu'ils vont finir leur vie en prison. Et on est bien obligé de leur faire comprendre. Mais...
Qu'est-ce qu'ils vous répondent ?
Ben, ils nous répondent qu'ils ont fait un choix. J'ai encore eu ce matin ce discours-là avec un majeur qui avait 24 ans et qui me maintenait que c'était être esclave hein, que de porter des cartons pour ceux qui ont de l'argent. Donc à mon avis, bon, ce jeune, là, on le reverra, même en vieillissant, on le reverra plusieurs fois à l'intérieur des murs d'une prison. Ouais, mais disons, comme ils ont leurs repères, ils ont pris leurs habitudes sur le bâtiment. Bon, on en a beaucoup, hein, comme ça. Bon, quelque part, il y a un échec quelque part, mais c'est pas un échec qui est dû à leur passage ici, c'est un échec qui est bien antérieur à cela. Donc, ben, pourquoi, après le passage, ils se tiendraient mieux? Donc, c'est vrai que c'est une grande question à voir, hein.
Écrasantes les questions que se pose Areski, le surveillant général de la prison de Bois d'Arcy, le quartier des mineurs, 39 mineurs dans cette maison d'arrêt, je vous l'ai dit, qui a été construite il y a une vingtaine d'années et qui reçoit 672 détenus, enfin actuellement à peu près 700 quoi, et dont donc 39 mineurs. Je vous l'ai dit, on parle d'une explosion de la violence chez les mineurs. C'est difficile de la mesurer comme ça c'est une accroche, un hameçon médiatique, mais c'est vrai qu'il y a une augmentation de décisions et de condamnations prononcées par des tribunaux et juges pour enfants en augmentation en 2001, et ces décisions étaient de 75 000 contre 35 000 il y a 10 ans, ce qui ne veut pas dire nécessairement qu'il y a plus de délinquants, c'est simplement, il faut encore le préciser, qu'il y a plus de condamnations. Et en 2001, 4000 mineurs ont été incarcérés pour des durées variables, soit deux fois plus qu'en 90. Actuellement, en permanence, il y a à peu près 700 mineurs dans ces établissements à travers la France. Et le chiffre, évidemment, le plus consternant, c'est qu'il y a 80% de rechute à la sortie. Alors, est-ce que c'est comme le suggère le surveillant général Monsieur Areski, un choix que font les détenus? Est-ce que c'est un échec antérieur? C'est une belle expression, je trouve, l'échec antérieur. C'est des questions qui se posent, et c'est des questions auxquelles les détenus répondent, bien évidemment. On va voir, dans le reportage d'aujourd'hui, tous les cas. On va voir ceux qui s'installent bel et bien dans cette délinquance. On pourrait les rapprocher de ceux que Eric Hobsbawm, l'historien anglais Eric Hobsbawm, appelait les primitifs de la révolte. Quelque chose qui relève de la révolte, ou bien alors quelque chose qui est entièrement subi, et le tout relevant d'un échec et d'un rejet de ce qu'on peut appeler les handicapés sociaux. C'est pas des choses toutes simples, c'est pas un monde simple que celui dans lequel nous nous trouvons.
Ah, ça c'est le repas.
Ça c'est le repas de ce soir. Alors c'était de la choucroute et de la saucisse.
Il est quelle heure là pour l'heure du repas, c'est à quelle heure?
C'est en général, c'est dans ces eaux-là, entre 5h30 et 6h.
T'as quoi dans les marquettes là?
Choucroute.
C'est quoi la choucroute?
C'est un plat alsacien, c'est une tradition française.
C'est ça.
Gastronomie.
C'est des choux?
C'est du chou avec du porc.
Salut. On mange pas de porc nous ici.
À demain. Salut.
Enfin, c'est le couscous en général.
Tout le monde prend?
Tout le monde prend. Là.
Et toi, t'es où alors?
Moi, je suis en face au
B2.
Ouais.
Mais t'es mineur aussi?
Moi, j'ai la tête d'un mineur.
Non.
Non, non, je suis pas mineur, moi. Les mineurs, ils peuvent pas travailler. Moi, pourquoi je bosse? Pour faire le lèche-cul, comme ça, j'aurai des permissions, je pourrais sortir plus facilement, semi-liberté et tout ça, quoi.
Au moins, c'est clair que pour faire le lèche-cul.
Ouais, parce que de l'argent, j'ai pas besoin d'argent. Tiens, c'est de la choucroute en plus. C'est bon.
Ça a le mérite d'être honnête.
On va encore.
Oh, non, ça a le mérite d'être honnête.
Effort de réinsertion.
Et c'est pour ça que tu bosses ?
Bah ouais.
Bonjour.
Je sais pas. Elle est dégueulasse la barquette aujourd'hui. Ah, c'est dégueulasse la choucroute. On va se faire une grosse gamelle de pâtes. On va dormir les yeux collés.
Tiens, à quoi il y a le fromage ?
Merci,
bon appétit, monsieur.
Bon appétit.
La choucroute n'a pas un grand succès, quoi.
Comme vous avez remarqué, il n'y a pas beaucoup de Français ici.
Enfin, Français...
De souche.
De souche, voilà. Moi, je suis Français, à mon avis, il doit être Français, 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 mais Français basané, quoi. Appelle Mix.
Toi, t'étais déjà venu en prison ?
Ouais, mais pas ici, pas à Bois d'Arcy. À Fresnes, Orléans. De toute façon, après, on vous transfère à gauche, à droite, Fresnes, Fleury, Bois d'Arcy. Ah, c'est comme si on passe du collège au lycée, quoi. Après, on fait des connaissances, et après, on ressort, on n'a plus envie de travailler, et voilà, quoi, c'est le cercle vicieux. C'est vrai qu'après, vous sortez d'ici, vous avez la rage. Le seul truc que vous faites, bah, personne ne veut vous tirer du cercle vicieux, bah, vous restez dedans. Et vous avez encore plus la mort, vous ressortez et rebelote, quoi. C'est ça la prison, bah ouais, c'est une sorte d'école, c'est l'école du vice. Là, les mineurs là que vous voyez tous ici là, mais sur tous ces détenus là, il y en aura peut-être un ou deux quoi qui va jamais revenir. Sinon tout le reste, soit ils se feront jamais prendre, soit bah ils reviendront ici pour des affaires criminelles ou un truc de ouf quoi.
Est-ce que c'est un peu ce qui s'est passé avec toi, non ? T'as commencé par les quartiers mineurs avant ?
Ouais, bah ouais.
Qu'est-ce que t'as fait quoi ?
Ouais, bah ouais.
Première détention, t'avais quel âge ?
Première détention, j'avais 16 ans, j'ai passé mes 17 ans au mitard. Après, tac, je suis ressorti, 21 ans, j'ai repassé mes 21 ans au mitard, la même, rebelote, et voilà, quoi. Maintenant, je suis ici, je paye pour des histoires de 97-98 en plus. Je travaillais, j'avais mes enfants, j'avais mon appartement, j'avais tout, ils m'ont dit, ouais, bah, tu sors de Fresnes, bah, tu vas y retourner. En gros, c'est ça que ça voulait dire.
T'as quel âge maintenant ?
Là, j'ai encore eu mes 25 ans. Mais là, ça va, c'était pas au mitard, 25 ans, et voilà, quoi. Je suis venu faire ma peine, voilà.
Combien de fois que c'est ? Tu passes par la case prison ?
Par la case prison, une, deux, trois, quatre fois. Ouais, faut de l'argent quoi pour vivre.
Nos parents, ils ont fait comment ?
Comment il a fait ? Ben, mon père, il est arrivé du Maroc, il s'est mis à travailler comme un yinche, il baissait la tête devant les gens, il faisait des heures sup, nanana. Résultat, maintenant, il est invalide. Ils ont pas voulu le reconnaître. Il a travaillé. Nous, on mettait des galoches en cuir. Il fallait un an pour les niquer qui nous ont racheté des autres. Ouais, bah, mon père, il a travaillé. Il a jamais volé. Mais bon, nous, on a grandi ici. Nous, c'est pas la même chose. Nous, on est nés ici. On a grandi ici. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est mon quartier. Tout ce que je connaissais, c'était mon quartier à part les vacances.
Je suis dans la même situation que toi. On a pris un chemin différent.
Il y en a un qui a l'uniforme de l'administration pénitentiaire et l'autre qui a le bleu des détenus qui travaillent.
Je suis dans la même situation que toi. Mon père, il est venu en France pour trouver du travail, pour m'élever. Et j'ai pas mal tourné.
Moi, j'ai grandi dans le quartier. Les keufs. Les keufs. Ils m'ont mis la rage. Tes papiers, wesh, ils connaissent mon nom par cœur. Ils ont mon nom par cœur. Le seul truc qu'ils cherchent, c'est un prétexte pour te mettre des baffes ou outrage rébellion. Casier judiciaire, j'ai 6 peines. 4 déjà, c'est outrage rébellion. Une, c'est stup. Et une autre, violence volontaire.
Une fois, deux fois, trois fois.
Mais après, on a la rage.
Quand les flics ils m'arrêtent, ils voient quoi ?
Et ça vous met pas la rage ?
Ça met la rage, mais...
Mais vous aussi, le surveillant, quand vous avez pas votre costume de surveillant, vous vous faites arrêter, contrôler, papier ?
Bien sûr. Une simple vérification de...
Vous n'arrivez pas à prendre sur vous ? Moi, je peux pas. Moi, j'ai trop la rage. Lui, parce qu'il est plus âgé, je sais pas comment il fait, il prend sur lui, il dit non, c'est pas grave, c'est qu'un con. Mais moi, où j'ai grandi, c'est tous des cons. La prison, c'est pas dur. La prison, c'est la pression. La pression, il y a des gens qui viennent en prison, ils font leur peine, ils savent qu'ils vont sortir. Mais il y en a, ils prennent des 9 ans, des 10 ans. C'est la prison, c'est la pression. Dès qu'ils voient quelque chose, qu'ils peuvent casser quelque chose et tout, ben, ils vont casser. Eux, ça leur permet de... Vous avez bien vu, des fois, il y en a, ils pètent les plombs, la télé, ils la cassent, le lit, ils arrivent même à casser les... Ils cassent tout. Juste pendant 5 minutes, ça y est, ça fait... Voilà quoi. C'est le jeu. C'est ça, quand on joue, on connaît les règles.
Et qu'est-ce que tu penses à l'idée qu'ils vont faire encore plus de prison pour les plus jeunes ?
Bah, de toute façon, là, parti comme c'est parti. Hein. Suivez juste comment ça se passe aux States, aux États-Unis. Là. Et bah, ça va se passer la même. Ils font plus de prison. Bah, s'ils font plus de prison, c'est qu'ils s'attendent à qu'il y ait encore plus de délinquants.
s'il y a encore plus de délinquants, c'est qu'il y aura encore plus de crimes et trucs comme ça. Et partis comme ils sont partis, là, hgar, c'est-à-dire à piquer les gens, et ben ils vont se faire brûler. Ils vont se faire brûler. Voilà, une bavure, deux bavures, mais les gens ils vont se tirer dessus, puis c'est tout, voilà. C'est pas pour des heureux, des Superman, ils rabaissent les gens. Bah, au bout d'un moment, les gens, bah, ils se révoltent, hein. Voilà. Tandis qu'il n'y a pas de, ils cherchent pas de solution alternative. Seule solution qu'ils connaissent, c'est enfermer les gens. Mais enfermer les gens, bah, la prison, ça forme les jeunes à être encore plus délinquants et à faire attention à pas se faire attraper pour la prochaine fois, c'est tout.
Toi, des grands qui te parlent franchement. On ne ferme pas les grandes gueules avec des pansements. Répression à l'excès pour les plus récalcitrants. Soit on crève l'abcès,
soit on crève l'écran.
Ceux dont les artères ont été du bâtiment très tôt te font le topo sur une planche et deux très tôt. Primo, si ça pue le gaz, ça sera pas de la lacrymo. De deux banlieues égale ceinture de feu. C'est dangereux sans trop d'efforts, c'est bestial. Prédestiné au pire et d'une humeur détestable. Dans ce climat instable, qui est-ce qui l'instaure? Quand la violence transite jusqu'à ton transistor, mec, prends ça comme un rouleau compresseur. Quand l'oppresseur t'augmente la vente de ses antidépresseurs, je cope pas la pilule de leur discours stérile qui n'engrosse que les cellules. Et plus l'infection purule, pareil qu'ici c'est le zoo, c'est le cirque. Voilà l'info qui circule, celle qui se répercute en catastrophe. Quand pour eux nos gosses naissent tous armés d'une kalachnikov. Me parle pas de justice et des paroles qu'elle t'offre. À moi, mon arc-en-ciel est noir et blanc comme la poudreuse plein l'écran. Et on finit par ressembler à ce pour qui tu nous prends, mec, dans le dortoir des grands. C'est le dortoir des grands qui te parle franchement. On ne ferme pas les grandes gueules avec des pansements. Répression à l'excès pour les plus récalcitrants. Soit on crève l'abcès,
soit on crève l'écran.
Violence, violence terrible dans ce quartier des mineurs de Bois d'Arcy. La violence, le mot violence à toutes les sauces, la violence urbaine, la violence des bandes, la violence dans les zones de non-droit, la violence est tout de suite liée à l'insécurité. Insécurité et violence, voilà des mots qui font fortune depuis quelques années. On commence quand même à parler d'insécurité sociale. Il faudrait mesurer le trou de cette insécurité sociale et voir s'il n'y a pas entre cette insécurité sociale et cette violence comme un lien. Et puis d'abord, violence fait partie des mots valises, des mots extrêmement commodes qui ont des significations totalement différentes entre une sorte de violence liée à la condition elle-même, humaine elle-même, et puis des violences évitables, des violences produites, des violences exploitées, des violences dont certains font leur jour. On retrouve Laurent Bonelli qui est chercheur en sciences politiques et sociologue. Laurent Bonelli.
Non, je crois que la violence, il faut faire d'abord très attention, parce que la violence, c'est un terme, je dirais, qui a beaucoup de sens et qui veut dire beaucoup de choses en même temps. C'est-à-dire que sous le terme violence, on va parler en même temps de la violence qui peut être faite à un certain nombre de victimes, c'est-à-dire une agression violente dans la rue pour voler quelque chose. On va parler de violence urbaine, c'est-à-dire par exemple d'affrontements contre la police, à la suite du décès d'un jeune, ou quelque chose comme ça. Et on va parler de la violence qui peut s'exercer entre ces jeunes, ou encore de la violence qu'ils vont exercer sur eux-mêmes, c'est-à-dire des violences autodestructrices. Et avec tout ça, ça va être de la violence. Donc je crois qu'il faut faire très très attention, je dirais, quand on utilise ce terme. Pour ce qui concerne ce dont je vous parlais, c'est-à-dire finalement la violence qui peut s'exercer en prison entre ces jeunes, elle est de plusieurs types. Elle est d'abord verbale, et n'a sans doute pas d'ailleurs la même charge, la même violence, pour le dire aussi simplement, quand elle est utilisée entre eux que quand elle est utilisée envers quelqu'un d'autre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je dirais, de ce qu'on observe en prison, c'est effectivement des formes de violence physique, qui là, pour le coup, ne sont pas propres aux jeunes de ces quartiers, mais marquent l'histoire de la prison en tant que tel. Il faut rappeler que l'histoire de la prison, c'est avant tout l'histoire de rapport de force entre caïds. Il suffit de relire Genet. Je crois que vous avez fait ces émissions des plongées historiques suffisantes pour montrer effectivement ce que cette violence qui structure les rapports sociaux en prison est extrêmement présente. Et elle est d'autant plus inhérente aux relations à l'intérieur de la prison qu'elle n'est pas médiatisée, qu'elle ne trouve pas, je dirais, d'autres tampons, puisque finalement, les relations en prison sont des relations hiérarchiques pures. Soit officielles, c'est-à-dire le rapport du surveillant au surveillé, soit officieuses, c'est-à-dire à l'intérieur des hiérarchies qui peuvent exercer dans les détenus. Les deux types de hiérarchies, d'ailleurs, fonctionnant de concert, puisque très souvent, je dirais, les autorités pénitentiaires tolèrent, je dirais de manière implicite, des formes de hiérarchie à l'intérieur des détenus qui leur permettent de faire l'économie du maintien de l'ordre au sein des détenus. Donc, je disais violence qui peut être verbale, violence entre les détenus, et je crois qu'il y a une troisième forme de violence qui est extrêmement forte en prison, qui est la violence contre les individus. Je rappelle que la France est sans doute un des pays d'Europe qui a le plus fort taux de suicide en prison, taux de suicide réussi, c'est-à-dire de gens qui meurent, et également taux de mutilation. Vous avez effectivement cette violence qui est souvent tellement pure, tellement dure à accepter à l'intérieur de la prison, que des gens la retournent contre eux, parfois même d'ailleurs, à quelques semaines ou à quelques jours, je dirais, de leur libération potentielle.
Quoi ? T'as dit quoi ?
Tu me parlais de l'avenir tout à l'heure.
Hein ? Ah, je t'entends plus.
Je sais plus quoi dire.
Nadia, vous faites partie des surveillants.
Surveillant poste fixe mineur. Ouais. Référent mineur, exactement. Pour être mineur, il faut déjà être très motivé. Bon, il faut croire en ce qu'on fait, quoi. Moi, dans ma tête, ici, quand j'ai des mineurs, bon, pour ceux qui restent pas très longtemps, en fait, c'est difficile, parce que ceux qui restent là qu'un mois, on peut pas vraiment arriver à faire quelque chose, un travail sur eux. Mais les mineurs qu'on a 6 mois, 1 an, souvent, bah, moi, mon espoir, c'est quand ils ressortent d'ici, au moins, ils aient évolué dans leur comportement, dans le rapport avec l'adulte, des choses comme ça. Si, tiens, il se dit, il se rappelle de certaines choses et ça lui permet de réfléchir aux choses comme ça, quelque part, j'ai gagné, quoi. Mais bon. Ça va pas être un gros pourcentage, mais c'est pas grave, il faut quand même se battre pour cela. Ce qu'il y a ici, c'est qu'on a plusieurs types de mineurs. On a les mineurs qui vont venir 5, 6, 7 fois. Donc ceux-là, apparemment, la prison, ils s'en foutent, ils en ont pas peur en tout cas. Parce que déjà, quand ils sortent, ils ont le discours de « bon, quand je vais sortir, je vais faire tel business, tel... » Ils appellent ça du business, hein. Donc on sait obligatoirement qu'ils vont revenir.
Ah oui, c'est des...
On se doute qu'ils vont revenir. Il y en a d'autres, on est sûr qu'on va pas les revoir. Et dernièrement, on a été surpris. On a sorti un mineur, 3 jours après, il revenait. Et lui, il était sûr de ne pas revenir.
Il avait fait quoi ?
Il avait volé une voiture. Rien de... Mais il avait volé une voiture. Et en sortant de là, il était sûr qu'il s'est retrouvé dans une histoire. Il est ressorti dehors, il est retourné dans son quartier, il a retrouvé ses potes et puis c'est reparti. Alors, il s'est tenu tranquille pendant 2 jours. Et puis le troisième jour, il est allé voir dehors... pour savoir si tous ses copains étaient là.
Et c'est là où, quand on a déjà un casier, on est à peu près sûr
d'y retourner. Le problème, c'est quand on rentre une première fois en prison, le problème après pour eux, c'est que quoi qu'ils fassent, ils vont revenir aussitôt. Là, le juge ne se posera plus de questions, enfin, ou très peu, en tout cas.
Ça doit être un peu dur, quand même, un peu désespérant, parfois, justement, de les voir revenir.
Oui, des fois, on est déçus, quand même. Hein. Quand on les voit revenir, on se dit, celui-là, on va l'avoir jusqu'à sa majorité. Quand il sera majeur, il va ressortir un mois, il reviendra au niveau des adultes, au grand quartier. Hein. Mais on en a énormément. C'est vraiment une grosse majorité. Ouais.
Que normalement, ils viennent ici pour pouvoir ressortir
après. Voilà, on est censé leur faire peur pour plus qu'ils reviennent. Mais apparemment, il y a des choses dehors qui leur font plus peur qu'ici.
Alors, l'index, s'il vous plaît.
Comme au commissariat.
Qui a été libéré ce matin, et quand on lui a annoncé sa libération, il n'y a pas eu de réaction. Généralement, la plupart des mineurs, en majorité, hein, même si des fois ils font semblant de certaines choses, très contents, ils sautaient partout, mais là pas du tout. Donc je l'ai laissé retourner à sa cellule, et puis je suis retournée le voir, et je suis allée le voir, et je lui dis, mais ça vous... Il me dirait que ça ne vous fait pas plaisir de sortir, ça fait 3 mois qu'il était là. Et il me dit, non, ça ne m'emballe pas plus que ça. Alors j'ai dit, mais la liberté, c'est quand même important, c'est quand même. Et il m'a dit, mais tu comprends, il dit Nadia, il me dit ici, j'ai trouvé des gens qui s'occupaient de moi, il dit ça se passe bien, je me suis fait des potes, et puis j'ai ma cellule, j'ai ma télé. En fait, il voulait m'expliquer qu'il avait son espace à lui, qu'il a peut-être pas à l'extérieur, qu'ici, il avait des adultes qui étaient à son écoute, qui s'occupaient de lui, qui lui disaient non quand il fallait lui dire non, qui lui disaient oui quand c'était possible. Il se sentait bien ici, en fait. Même si c'est des choses qu'il faut pas dire, mais ici, il se sentait bien. Celui-ci, il va revenir sans arrêt. En fait, il n'y a rien pour lui dehors. En tout cas, ce n'est pas fait correctement. Parce qu'on est vraiment, nous, le dernier maillon, c'est-à-dire quand ils ont fait toutes les mesures éducatives possibles à l'extérieur. Ils sont passés à travers, et bien ils arrivent ici. Et nous, c'est vraiment le terminus. Hein. Et après, au-delà, il n'y a pas.
Ah, Nadia, donc, qui est surveillante dans cette. Prison pour mineurs de Bois-d'Arcy, des gens comme ça, on en a rencontré plusieurs, mais enfin évidemment avec une tendresse particulière pour Nadia. Voilà quelqu'un d'autre qui essaye de faire quelque chose avec ces mineurs. C'est Christophe, qui est prof à l'éducation nationale et qui est en dialogue avec un nouvel arrivant, Marc.
Bon, moi tu me connais pas, je suis représentant de la question nationale, je suis prof ici, je m'occupe des mineurs. On va discuter de ta scolarité. Alors,
c'est quel âge là ?
J'ai 16 ans.
Ouais. Tu vis avec ton père, ta mère, tes grands-parents,
oui. T'es dans un foyer. Ouais.
Donc t'as quitté tes parents,
ouais.
Ils t'ont placé. Depuis quand t'as été placé ?
Et ben, ça va faire 7 ans.
7 ans. Depuis l'âge de 9 ans. Donc tu sais à peu près combien de foyers t'as fait ?
7 ou 8.
7 ou 8 foyers ? Et pourquoi t'as changé de foyer ?
C'était les foyers d'urgence, c'est-à-dire que c'était les foyers où on pouvait prendre que certains temps, 3 mois, 6
ouais,
mois.
Ouais. Il n'y a rien d'autre ?
Non. Si j'ai fait 2-3
parce que là, t'as changé tous les ans, t'as changé de foyer, quoi.
Ouais,
pas de problème de comportement ?
Non. Hein. Non. Si, certains, mais c'était pas les trucs graves. C'était les embrouilles, mais c'était pas pour des trucs comme pourquoi je suis ici.
Et t'étais scolarisé durant ces années de foyer ?
Ouais, j'étais en 3e.
Est-ce que tu veux faire du sport ?
Là, bientôt, là.
Bah, dans la tente là.
C'est en groupe ou c'est tout seul ou...
C'est en groupe.
Non, j'ai envie de lire.
T'as envie de lire surtout ? Tu lis beaucoup ?
Non, je lis beaucoup. Je lis surtout les bandes dessinées, c'est surtout ça que je regarde.
Autrement, t'es des livres sans images, tu lis, non ?
Non.
Non, d'accord. C'est la première fois que tu tombes ici ou c'est.
Première fois.
C'est la première fois.
Et vous, vous êtes prof de quoi, vous ?
Moi, en fin de compte, je suis prof de maths, français. Un peu de tout. Ce qu'on fait, nous, c'est des remises à niveau. Donc, d'après ce que j'ai compris, il faudrait que tu sois en cours restreint. Il n'y a pas trop de monde avec toi ?
Ouais, pour ça, je ne veux pas avoir beaucoup de monde.
Ce qui serait bien, c'est que tu sois en cours tout seul, même.
Ah bah, ça
serait l'idéal, hein ?
Ouais.
Hein ? D'après ce que j'ai compris. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur une base de cours de 3 fois par semaine. 1h30, tu seras en cours particulier. Et puis on va voir comment ça se passe.
Ouais.
Ça va ?
Ça marche.
Voilà. Donc tu seras tout seul, donc il n'y a pas de souci. T'as pas à t'inquiéter.
Ouais.
Il n'y aura pas de pression, il n'y aura rien de souci, rien de tout ça. Quand tu descendras, c'est pareil. D'accord ? Tu descendras, normalement tu seras accompagné d'un poste fixe,
ouais,
etc. Ok ? Donc t'as pas à t'angoisser sur la descente ni la remontée. Tu as des questions ?
Vous n'aurez pas une cigarette, s'il vous plaît ?
Je ne fume pas.
Bon, bah, sinon je vois une question.
C'est clair ?
Bah, c'est clair. Ça marche.
Voilà. C'est bon.
C'est bon.
Christophe, qu'est-ce qu'il faut retenir d'un entretien comme ça où vous l'avez vu pour la première fois, hein ?
Ce qu'il faut retenir, c'est que moi, j'ai par rapport à son parcours scolaire, moi, je sais que c'est un gamin qui a été en échec scolaire, qui est en souffrance par rapport à son passé scolaire et surtout à sa situation familiale puisqu'il est en foyer.
Depuis l'âge de 9 ans.
Depuis l'âge de 9 ans, ouais. Ça veut dire que c'est un parcours chaotique avec des placements 8 foyers en 7 à 8 foyers en 9 ans. C'est énorme, quoi. C'est énorme. C'est un parcours où le gamin il a eu aucune stabilité affective, je pense, et scolaire. Parce que moi, je pense que ces trois ruptures, elles sont liées. Hein. Rupture non familiale, rupture scolaire et rupture sociale. Ces trois choses-là sont liées. Si ces trois ruptures sont en phase, le jeune, il crée son univers, il crée sa différence.
Et il y a des cas comme celui-ci, le cas de Marc, ses familles en miettes, parcours scolaire un peu plus chaotique.
Et puis rupture avec la société, avec une incarcération. Ouais. Ce qui fait qu'on a un jeune, s'il ne tombe pas sur un éducateur ou un juge ou quelqu'un sur qui il peut projeter quelque chose de positif, et ben. Mais un récidiviste à. Bon, lui, il n'est pas récidiviste, mais un récidiviste à 17 ans qui est déjà venu trois fois à Bois d'Arcy. La société est pas mal en échec, quoi. On est assez en échec là-dessus. On est en échec. Et le tout sécuritaire, je pense qu'elle accentue cet échec. Et là, on est en train de scinder deux mondes. Hein. On est en train de faire une vraie fracture. Parce que la prison, pour eux, pour moi, ça fait partie d'un parcours que beaucoup de jeunes délinquants connaissent. Et c'est dans la normalité de leur parcours. C'est pas normal pour nous, mais c'est dans la normalité de leur parcours. Et l'endurcissement, il se fait aussi par la prison. Hein. Parce que l'enfermement est dur à gérer quand même. Hein. Un jeune, il vient en cours, il a des activités, mais l'incarcéré, il a en moyenne quand même 18 heures en cellule. Hein.
18 heures d'enfermement quotidien.
Ouais, minimum. C'est pas évident.
Ça prend beaucoup plus de temps de remettre quelqu'un sur pied que de l'enfermer.
Bien sûr, c'est beaucoup plus de boulot pour un jeune mineur de lui imposer quoi que ce soit, sauf l'enfermement.
Et politiquement, c'est beaucoup plus facile d'avoir des résultats en termes d'enfermement qu'en termes de réinsertion, ou d'insertion même tout court.
De toute façon, il n'y a pas de statistiques de réinsertion. Hein,
Troisième, s'il vous plaît, merci.
C'était la suite de la série Peine perdue, reportage de Guy Vanctil dans la prison pour mineurs de Bois d'Arcy dans les Yvelines. Merci à Laurent Bonelli, co-auteur avec Gilles de Senati de La Machine à punir aux éditions L'Esprit Frappeur. Plus d'informations à votre disposition sur le site de la BOT si j'y suis en allant sur franceinter.com.